Alors, on va lire dans la Bible un proverbe qui m'a parlé ces derniers temps. Alors, je vous annonce que ce que je vous prêche ce matin, c'est quelque chose que je me suis prêché à moi avant vous. C'est bien, hein ? C'est une prédication que le Seigneur m'a faite à moi. Alors, quand même à profiter, je veux vous faire profiter aussi. Proverbe, chapitre 25, verset 26. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Et le méchant pour nous, c'est le diable. Chapitre 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Et un dernier passage bien connu, on va prendre juste une partie, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, qui parle du combat du chrétien, bien sûr. Chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On ne va pas lire tout le passage, hein, mais une partie. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et après, il parle des armes du chrétien. Et j'ai noté dans ce passage, regardez bien, hein, il dit au verset 11, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, il dit, verset 13, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister et tenir ferme. Et verset 14, tenez donc ferme. Voilà. Notre guerre est une guerre essentiellement défensive. Essentiellement. Pas que, mais essentiellement. Et notre guerre est essentiellement une guerre de position. Nous avons acquis une position en Jésus. C'est important de savoir ça déjà. C'est important parce que il y a des chrétiens qui remettent en question ce que le Seigneur leur a donné. Quand tu es venu à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. On est d'accord. Les choses anciennes sont passées, elles sont vraiment passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tes péchés ont été vraiment pardonnés et tes chaînes ont été vraiment brisées. Et tu es dans une position comme quelqu'un qui a gagné une forteresse et tu es dans ta forteresse. Et après, l'essentiel pour toi, c'est de tenir ta position. De tenir ta position. Il ne s'agit pas de reconquérir ce que le Seigneur a déjà conquis pour toi. Il ne s'agit pas de recommencer le travail. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, comme l'Épître aux Hébreux dit. Il ne s'agit pas de reposer le fondement à nouveau, comme des enfants. Il ne s'agit pas de remettre en question tous les jours ta conversion. Vous savez, quand on est converti au début, moi, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur au début, presque tous les jours, j'ai redonné mon cœur, parce que je n'étais jamais sûr. Ça, il y avait un appel, à chaque fois j'étais touché, Seigneur, je te donne mon cœur, et le lendemain, Seigneur, je te donne mon cœur, et dimanche après, Seigneur, je te donne mon cœur, mais bon, ça va un peu quand on est jeune. Mais après, quand on marche avec le Seigneur, on s'aperçoit que Seigneur, je te donne mon cœur, je te l'ai donné. Je ne vais pas me reconvertir. Il ne faut pas confondre la sanctification, la marche avec le Seigneur, la consécration et les fondements. Je suis sauvé. Je ne vais pas être sauvé, perdu. Je ne vais pas être libéré, enchaîné. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ma vie, c'est pas tic-tic-tic-tic-tic-tic. C'est pas ça. On s'est compris. Donc, notre guerre est une guerre de position. Et c'est déjà... En ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Déjà, sois conscient que tu es dans une position. Il s'agit pour toi, quand tu es attaqué par le diable, il s'agit pour toi de tenir ferme, de rester dans une position de foi solide. Il ne s'agit pas pour toi de te remettre en question. Il ne s'agit pas pour toi de revenir en arrière, mais tu dis, je sais que je suis sauvé, quels que soient mes sentiments. Je sais que je suis à Jésus. Je sais que j'ai été libéré. Et la guerre, elle est là. Eh oui. Alors, justement, tenir ferme contre les ruses du diable, contre ses stratagèmes, contre ses plans machiavéliques. Il est intelligent. Il est malin et beaucoup plus que toi et moi. Eh oui. Il attaque dans le dos. Il attaque dans le noir, il attaque en indirect, il attaque tes proches. il attaque d'une telle façon que tu ne sais pas que c'est lui, mais il t'attaque quand même. Et il exploite tous tes points faibles. Alors il va te dire, comme je disais, il va te dire, tu n'es pas sauvé. Ben oui, regarde, t'es un mauvais chrétien. Ben regarde, c'est des faux, t'es pas sauvé toi, t'es pas Jésus. Il va te dire, est-ce que tu es vraiment délivré de tes anciens péchés? Est-ce que tes péchés ont été vraiment pardonnés? Est-ce que Dieu a vraiment dit, ça vous rappelle rien cette parole? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tes péchés sont pardonnés, Jonathan? Est-ce que tes péchés ont été vraiment effacés? Est-ce qu'ils ont été oubliés? Est-ce qu'ils ont été jetés au fond de la mer? Il va parfois aussi mettre des fausses doctrines. Alors les fausses doctrines, c'est un peu comme les billets faux. Ça ressemble. C'est presque comme si, mais c'est pas tout à fait ça. Et c'est ça qui est dangereux. Alors il va commencer à te dire qu'un chrétien peut être possédé. Il va peut-être te dire, oui, mais il y a peut-être une malédiction dans ta famille. Et il faut peut-être que tu brises la malédiction des générations passées. Vous avez déjà entendu ça? Oh là là, je suis sûr que ça vous rappelle des choses. Il va peut-être te dire, ben, si tu es chrétien, tu dois toujours prospère, toujours riche et toujours en bonne santé. Il attaque dans l'intellect. Il attaque dans notre vie spirituelle. Il met en doute l'amour de Dieu pour nous. Il va te dire, mais Dieu t'aime pas. Est-ce que Dieu t'aime? Regarde, si Dieu t'aimait, est-ce que tu serais comme ça? Regarde, ça fait des années que tu pries pour ça et puis tu n'es toujours pas exaucé. Mais est-ce que Dieu t'aime? Il va te mettre en toi le doute sur l'amour de Dieu. Il va peut-être te dire, mais la Bible, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Ah, regarde ça. T'as vu, là, il y a une contradiction, là. Là, il y a ça, c'est écrit là, et puis là-bas, il y a marqué le contraire. Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est authentique? Il va essayer de mettre la zizanie. La zizanie dans ta famille, la zizanie entre toi et tes frères, la zizanie dans l'église. La zizanie. Il va calomnier les incompréhensions. Je ne peux pas faire une liste exhaustive parce que je ne suis pas assez intelligent. Mais il y a beaucoup, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'attaques. Et contre ces attaques, frères et sœurs, contre ces ruses du diable, nous sommes appelés à tenir ferme. Et pour tenir ferme, bien sûr, il faut confesser la parole de Dieu. Et il faut employer les armes que Dieu nous donne. Il faut ne pas nous reposer sur notre intelligence, sur notre sagesse, sur notre intellect. Nous ne sommes pas assez intelligents pour discuter. Alors ne discute pas. Mais prenons les armes que le Seigneur nous donne dans sa parole. Croyons ce que la Bible dit. Et la parole de Dieu est puissante pour nous sortir d'affaires. Résistez donc contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses du diable. Et après, l'apôtre Paul, dans cette épître aux Éphésiens, dit « Résistez dans le mauvais jour ». Qu'est-ce que le mauvais jour? Alors, il y en a qui vont me dire « Ben moi, le mauvais jour, c'est tous les jours ». C'est vrai en plus, on rigole, mais c'est pas rigolo. Et certains, bien sûr. Et certains vont dire, mais moi, le mauvais jour, c'est une mauvaise année. Le mauvais jour dans la Bible, c'est le jour, la période de temps où nous sommes particulièrement tentés, où nous sommes particulièrement agressés, où nous sommes particulièrement attaqués par le diable. Qu'est-ce que c'est le mauvais jour pour Jésus? C'est déjà quand il a été emmené par l'Esprit de Dieu au désert, et qu'il a été tenté par le diable pendant 40 jours. C'était un mauvais jour, ça, pour lui. Et la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il y a toujours un moment favorable. Et quel était ce moment favorable? Gethsémané. Luc, chapitre 22, verset 53. Jésus qui dit, « Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Jésus, au début de son ministère, il était dans le mauvais jour, et il a terminé son ministère aussi avec le mauvais jour. Et ça nous fait dire d'ailleurs que c'est jamais terminé. Tu seras attaqué à 20 ans, tu seras attaqué à 80 ans si tu es encore vivant. Bien sûr. Et ça nous exhorte à être vigilants, à être sur le qui-vive. Eh oui. Pour Pierre, le mauvais jour, c'était autour du feu, lorsqu'il a dit « Je ne connais pas Jésus ». Et c'est vrai que Jésus l'avait prévenu, il lui a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment ». Et ça arrive parfois, pour nous. Chacun a eu, aura son mauvais jour. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce mauvais jour, nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas joyeux ce matin. Et ce mauvais jour, le Seigneur l'a prévu, l'a mesuré, il a calibré en fonction de ce que chacun peut supporter. C'est une bonne nouvelle, ça. Parfois, certains souffrent certaines choses, mais Dieu sait que nous ne sommes pas capables de supporter ces choses-là. Alors il calibre, il permet, il laisse ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Et là-dedans, nous sommes appelés à tenir notre position. Dans ces moments que nous pouvons passer, alors nous sommes comme les disciples dans la tempête, ça souffle, il y a des vagues. Nous sommes comme, si je vous dis ces choses-là, ça vous parle? Si je vous dis vent contraire, tempête, si je vous dis sombre vallée, si je vous dis abattement, découragement, si je vous dis grand moment de solitude, personne ne me comprend. Je suis sûr que ça parle à tout le monde, ça. Ça parle à tout le monde. Est-ce que le chrétien connaît toutes ces choses-là? Ouais. Ouais. Alors, bien sûr, je ne parle pas pour encourager... bien sûr, il faut faire la différence entre quelqu'un qui serait, par exemple, dépressif. Ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Je parle de moments spéciaux où, vraiment, nous pouvons être attaqués. Il ne s'agit pas de dire, ben oui, moi, je suis toujours comme ça. Non, ça, c'est pas... C'est pas le mauvais jour. C'est peut-être qu'on a besoin d'être guéri d'une dépression. C'est autre chose. On est bien d'accord. Je parle de quelqu'un que ça va bien. Et voilà, il y a ces choses qui se passent et qui sont objectives. Parce que la maladie frappe. Parce que la maladie te frappe, toi, tes proches, et que tu cries à Dieu, tu pries, et que tu ne comprends pas, mais Dieu ne semble pas t'exaucer. Parfois, tu te sens comme... abandonné par des amis, des frères, des sœurs qui ne te comprennent pas. Est-ce que vous savez que parfois, on peut passer des moments où personne ne nous comprend? Ça arrive. Ça arrive. Le meilleur des amis, le meilleur des frères et sœurs est limité. Et parfois, il y a des situations incompréhensibles à vue humaine où on ne peut pas comprendre vraiment et on peut se sentir très seul. Ça peut être des moments de déception. Vous pouvez être déçu. Vous espériez quelque chose et vous êtes déçu. Ça peut être des moments de chômage, ça peut être des moments au contraire de surmenage au travail, ça peut être des moments de découragement, ça peut être des moments d'oppression spirituelle dans la prière. Vous savez ça? Vous savez que ça existe? Vous priez, vous êtes chrétien, vous priez et vous cherchez Dieu et vous intercédez et vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'oppose. Est-ce que pour autant vous n'êtes pas au Seigneur? Mais non, il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat. Même le prophète Daniel, à un moment, il est écrit qu'il était là, il s'est tenu devant Dieu pendant 21 jours. Et c'est écrit quand même qu'à un moment, Dieu lui a envoyé un ange et qu'il lui a dit, mais voilà, pendant 21 jours, tel démon a résisté. Pendant 21 jours, il y a une résistance à ta prière. Vous lirez ça dans le livre de Daniel, chapitre 10. Ça arrive. Vous pouvez passer aussi par la persécution. En tant que chrétien, le Seigneur, il a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Alors c'est vrai, nous, on est dans un pays libre, mais on peut être persécutés de diverses façons. Il y a des façons subtiles et civilisées de persécuter les gens, vous savez, il n'y a pas de problème. Et pouvez tout aussi bien être persécuté parce que votre famille ne vous comprend pas. Vous pouvez aussi passer par des moments où tout d'un coup, vous êtes devant des tentations qui vous semblent anormales. Il vous semble que Dieu vous laisse seul face à la tentation. Comme Jésus au désert. Et là, dans toutes ces choses, il est important déjà de discerner que c'est une attaque spirituelle. Et oui, quand vous voyez qu'il y a des choses qui sont anormal par la fréquence, par la durée, par le cumul des événements, et qui a parfois même un enjeu spirituel. Parce que, voilà, parce qu'il y a des victoires à la clé. Il faut discerner parfois les attaques du diable. Et c'est important, frères et sœurs, de se tenir proche du Seigneur pour cela. C'est pas facile toujours. C'est pas facile. Parce que parfois, je fais une petite parenthèse, parfois on a des problèmes, on a des combats dans la vie chrétienne et qui sont dus à nos points faibles. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, par exemple, vous allez avoir un problème avec quelqu'un, mais parce que simplement, vous êtes un petit peu trop orgueilleux. Enfin, je parle pour moi. Allez, je vais dire moi. Par exemple, moi, j'ai un problème avec quelqu'un parce que je suis susceptible. Vous comprenez ça? Ou parce que je ne sais pas pardonner. Ça, ce n'est pas un combat spirituel. C'est un combat avec ma chair. C'est parce que je n'obéis pas au Seigneur. Vous comprenez? J'ai un problème avec un voisin, et puis moi, je suis chrétien, et je vais y faire un procès. Ce n'est peut-être pas forcément très biblique. Alors, je vais avoir des problèmes avec les voisins parce que je leur fais des procès. Ça, ce n'est pas un combat très spirituel. Je suis obligé de vous le dire. Eh ouais. Alors, il y a des choses comme ça qui ne sont pas vraiment spirituelles. Et parfois, c'est difficile. Mais parfois, il y a des choses, c'est vraiment spirituel. Et parfois, c'est les deux en même temps. C'est ça qui est compliqué. C'est mélangé. Vous avez un point faible parce qu'on n'est pas parfait. Et donc, à un moment, vous avez fléchi sur un point parce que, voilà. Je prends un exemple pratique. Vous êtes avec quelqu'un et puis vous avez le sang un peu chaud. Et puis vous allez vous énerver avec cette personne, tout ça. Et après, vous savez que vous voulez rattraper ça parce que vous savez que devant le Seigneur, ce n'est pas bien. Mais le diable, il en rajoute un peu. Puis là, du coup, ça prend des proportions anormales, même malgré que vous pouvez faire. Vous voyez, ça, c'est des choses, c'est mélangé parce que le diable se sert aussi de nos points faibles. C'est une guerre vicieuse, méchante, qui se situe à plusieurs niveaux. Et le but, c'est quoi? Le but, premier, bien sûr, c'est si on peut, c'est vous faire perdre votre foi. Restez ferme dans la foi. L'apôtre Paul le dit souvent, chrétien. Donc je m'autorise à le dire parce que c'est souvent dans les épîtres où il dit aux chrétiens, restez ferme dans la foi. Le but, c'est donc d'essayer de perdre la foi. Mais parfois, c'est difficile pour un chrétien de perdre la foi. Quand même, on sait qu'on est au Seigneur. Mais c'est plus facile de perdre la joie et la paix. Et parfois, le diable, il n'arrive pas à vous faire perdre la foi, mais il fait de nous un chrétien triste qui est un triste chrétien. Et il arrive parfois, à cause de ces combats, de ces luttes, à faire que l'amertume gagne notre cœur, l'enthousiasme s'en va, et alors, à un moment, il y a quelque chose qui est cassé. Et j'ai une bonne nouvelle, le Seigneur répare ce qui est cassé. C'est très important ce que je vous dis là. Le but, c'est soit de nous mettre hors jeu, comme certains qui sont tombés, soit de nous rendre inutiles et passifs. Et pour toutes ces choses-là, nous sommes appelés, nous, à tenir ferme. Alors la bonne nouvelle, bien sûr, c'est que le Seigneur relève ceux qui sont tombés et que le Seigneur répare les brèches et il guérit les cœurs brisés. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut éviter de tomber dans ces problèmes en tenant ferme contre ces choses-là. En faisant quoi? En employant les armes que le Seigneur nous donne. Quand tu es accablé par tes soucis, par tes tracas, par tes problèmes, quand tu es miné par les soucis, par tout ce qui se passe dans ta tête, par les soucis sur la famille, les soucis sur le travail, les soucis sur je ne sais quoi, alors la Bible dit, dépose tes fardeaux au Seigneur. Dis-lui tout. Confie-lui tout. Parle-lui. Il est ton meilleur ami. Dépose tes fardeaux. Emploie les armes du Saint-Esprit qu'il te donne, dont je ne les ai pas lues, Éphésiens 6, parce que ça ne sert à rien de les lire dans le détail. Mais vous savez, quand l'apôtre Paul il compare à un soldat le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, etc., ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Mais il y a des armes qui sont que je fais confiance au Seigneur, j'emploie sa parole, je lis sa parole, je crois sa parole et je m'adresse au Seigneur et je partage. Il y a aussi une force dans l'Église. Une force dans l'Église. Parce que nous sommes soldats, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes une armée. Non ? Il paraît que les légions romaines, elles avaient la technique de la tortue. Vous connaissez la technique de la tortue, là ? Hein ? Il y en a qui sont experts en histoire, la technique de la tortue avec les boucliers les uns contre les autres. Et puis au-dessus, pour avancer soudé. Ça va peut-être pas très vite, mais c'est efficace. Alors, adoptons la technique de la tortue ce matin. Voilà. Alors, employons les armes de Dieu, parce que toutes les armes nous ont été données face à ces combats. Et un dernier point, l'apôtre Paul dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Ayant tout fait, ayant tout mené à bien, tu es appelé, après un grand combat, à rester sur tes gardes et à tenir ferme. Souvenons-nous de Élie, qui, après sa grande victoire, a eu quelques soucis. Après avoir vaincu, ne baissons jamais la garde. J'ai noté quelque chose, là, que je me suis dit à moi. Et, retenez, c'est une citation fameuse, elle est inventée par moi. J'ai marqué, on ne va pas avec des arcs et des flèches contre une armée, des gens armés de fusils. On ne va pas avec la cavalerie contre des tanks. On ne va pas avec des tanks contre des avions. Et on ne va pas avec des avions contre des missiles atomiques. Frères et sœurs, on ne peut rien par nos propres forces. Et ça, c'est l'arme suprême. Les armes que le Seigneur nous donne, ce sont des armes géniales, formidables, extraordinaires et très efficaces. Nous sommes appelés à les prendre. Nous sommes appelés, je ne sais pas comment l'apôtre Paul aurait parlé de nos jours quand il disait « Prenez le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice ». Alors je me suis dit peut-être qu'il aurait dit « Prenez le blindage de la justice ». Qu'est-ce qu'on pensait ? J'en sais rien, moi. Il n'aurait pas employé les mêmes armes. Hein, il aurait peut-être dit « La parole de Dieu et le bazooka de l'esprit ». Et pourquoi pas ? Tout ça pour vous dire qu'avec le Seigneur, on a vraiment des armes efficaces, puissantes. Eh oui. Et ces armes sont uniquement spirituelles. Souvenons-nous que Jésus a prié, et il s'est servi de la parole de Dieu. Tenons ferme, car ça vaut la peine. Pourquoi ça vaut la peine ? Parce qu'un jour, nous aurons notre récompense. Parce que Jésus a tenu ferme pour nous. Jésus, le Seigneur, il a tenu ferme lorsqu'on lui a craché dessus, il a tenu ferme lorsqu'on l'a cloué, il a tenu ferme lorsqu'on l'a flagellé, lorsqu'on l'a fouetté, il a tenu ferme lorsqu'il était sur la croix et qu'on lui a dit « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu ». Il aurait pu, s'il avait voulu, il aurait pu descendre de la croix. Il a tenu ferme. Pour qui ? Pour nous, Jésus. Il a tenu ferme. Alors on dit ah ben, il a tenu ferme parce que c'est le Fils de Dieu. Non, il a tenu ferme parce qu'il nous aimait et parce qu'il a beaucoup souffert pour tenir ferme. Et quand on voit ce qui s'est passé à Gethsémané, on voit que ça n'a pas été une mince affaire, cette histoire-là. Il a tenu ferme et ça n'a pas été facile. Et il a tenu ferme aussi face à la haine. Parce qu'il n'y a pas eu que les souffrances physiques, il y a eu quand même les souffrances morales. Il a tenu ferme alors que son disciple l'a trahi, Judas. Il a tenu ferme face à ces hommes religieux qui se moquaient de lui, quand même. Je ne sais pas si on réalise, enfin moi j'ai du mal à réaliser des hommes religieux qui se moquent de lui, là, les gens qui représentent la religion, et qui se moquent de quelqu'un qui est à la croix, qui est quand même le Fils de Dieu. Et il est resté pour nous. Alors ça vaut la peine de dire, Seigneur, si toi tu as tenu ferme, je pense que je peux tenir ferme pour toi aussi. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Et alors, c'est vrai que c'est écrit dans la parole de Dieu à propos de la fin des temps, à propos notamment du peuple juif, mais on peut se l'appliquer à nous. Il a dit, mais dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans le livre de Daniel, il est parlé à propos d'une tribulation du peuple juif. Il dit à un moment, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe autour de moi. On peut voir des choses, parfois pas très positives, mais ce qui compte, c'est que toi, moi, je veux rester solide, je veux résister, je veux tenir ferme. Et je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Les temps sont difficiles. Quand on parle du mauvais jour, le mauvais jour est là maintenant aussi sur notre nation, sur notre peuple et autour de nous, sur le monde. Et les temps seront difficiles de plus en plus parce que Jésus revient vraiment bientôt. Et le Seigneur nous appelle à être ces gens qui tiennent solidement avec lui. Et c'est vrai qu'on va voir des choses pas faciles autour de nous. Et il faut tenir ferme dans un monde où tout part au niveau moral, au niveau des familles, au niveau de tout ce qui se passe autour de nous. Toi, moi, par la grâce de Dieu, par ses armes, pas par mes forces, je veux résister, je veux tenir ferme. À quoi ça sert de remporter de grandes victoires pour tout lâcher après? Hein? Que le Seigneur nous aide ce matin. Tenir ferme, résister. Souvenons-nous de cette femme qui a écrit sur le mur de sa prison, résister. Que tu sentes la présence de Dieu ou non, que tu passes par des moments difficiles, que tu passes par des moments sombres où tu ne sens pas la présence de Dieu, où tu te sens abattu, tu te sens écrasé, tu te sens découragé, où tu sens que tu as envie de tout lâcher, j'ai une parole de Dieu pour toi ce matin. Tiens bon, résiste, avec la grâce de Dieu, le Seigneur t'en donnera la force. Si tu dis, toi, moi, je veux tenir ferme, je veux résister, le Seigneur t'aidera. Amen.